13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
ABS à votre santé, rebonjour, bienvenue. Aujourd'hui, vous savez, c'est Karima qui est avec nous, Karima Shadibaou, rebonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous, vous nous avez accompagné pendant l'émission. Vous êtes coach familial et parental, entre autres.
Oui, absolument.
Voilà, et vous êtes formatrice au sein de l'Institut Européen d'Études et de Recherche sur les Thérapies Holistiques, l'IEERTH.
Absolument.
Sans parler du burn-out familial, alors on parle beaucoup, puisque c'est un sujet qui occupe les médias depuis 2-3 ans du burn-out au travail. On parle moins du burn-out parental. Comment est-ce qu'on le traduit en français, ce burn-out parental ?
Alors, le burn-out parental, en fait, il peut être expliqué, en fait, ou exprimé comme étant, en fait, une fatigue. La fatigue émotionnelle, donc, qui est liée au surmenage, qui est liée, en fait, à la perte d'énergie quand on s'occupe de ses enfants. Et notamment, quand on s'occupe des enfants, c'est pas comme au travail où on peut dire, bon, ben là, je me mets en pause, ou je me mets, ou j'arrête, ou je vais aller prendre un peu l'air. Avec les enfants, on les a 24 heures sur 24.
D'accord. Ouais. On parle d'épuisement, hein, vraiment.
On parle vraiment d'épuisement. Et dans le milieu, en fait, entre thérapeutes, on a une métaphore, en fait, pour exprimer un petit peu ce que c'est que le burn-out, à la différence de la dépression. Par exemple, vous avez une maison qui est, en fait, sur laquelle il va neiger. Et le toit va être empli, en fait, de la neige.
Ça s'accumule, ouais.
Ça s'accumule. Ouais. Ça, c'est le burn-out. Et à un moment donné, la maison, le toit va s'écrouler. L'édifice va s'écrouler. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est une pression qui est extérieure. La dépression, parce que souvent, on les assimile. On a du mal un peu à faire la différence entre les deux. La dépression, c'est quoi ? C'est les termites, en fait. C'est comme les termites qui vont, en fait, ronger de l'intérieur. Ça veut dire quoi ? Que la dépression, c'est quelque chose qui est plutôt interne. Tandis que le burn-out, c'est quelque chose qui est externe et qui peut ensuite se transformer par une dépression.
C'est les deux, le burn-out, hein, c'est à la fois physique et psychique.
C'est physique et psychique, absolument. Pourquoi ? Parce que il y a plusieurs facteurs, en fait, qui vont rentrer en jeu. Le premier facteur, c'est celui j'y arrive pas, quoi. Je suis une maman. On parle beaucoup des mamans, mais il y a aussi maintenant les papas. C'est pour ça qu'on parle de burn-out parental, parce que les pères aussi qui s'occupent de leur enfant et qui font le choix de rester à la maison. Voilà, donc on en a, et puis c'est très bien, hein. Ils vont aussi vivre, en fait, ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de syndrome de perfection. Je veux être la meilleure maman, je veux être le meilleur papa, donc du coup, on va avoir le syndrome que j'appelle, moi, la mère araignée. Araignée, c'est-à-dire le règne de la mère. L'araignée, pourquoi ? Parce qu'elle a plusieurs pattes, ouais. Qu'elle a, en fait, le contrôle sur plusieurs choses, d'accord ? Et le règne, c'est-à-dire que tout va dans son sens à elle. Elle doit tout contrôler. Et donc le problème, c'est qu'on peut pas tout contrôler, surtout des enfants. Les enfants, c'est des mangeurs d'énergie, je les appelle comme ça. Ils peuvent être toxiques, ils peuvent être. Et puis ça, c'est le deuxième symptôme aussi, syndrome plutôt, celui de donc on veut prendre le contrôle, celui où il y a une ambivalence au niveau émotionnel. Ça veut dire j'aime mes enfants et puis je les déteste en même temps. Je les déteste pourquoi ? Parce qu'ils me fatiguent.
C'est pour ça que c'est tabou, parce que.
C'est pour ça que c'est tabou, absolument.
Parce qu'effectivement, les enfants, c'est formidable.
Bah oui.
Ça nous épanouit.
Exactement.
C'est tellement gentil.
C'est gratifiant, voilà, d'être parent, ouais. D'être. Et il y a une autre pression aussi, c'est celui donc de la mère parfaite, mais aussi celui de la société, en fait, qui nous impose, c'est quelle mère je suis. Alors souvent, moi, c'est ce que je dis aux femmes que j'accompagne. Je dis, vous savez quelle femme vous êtes, vous savez quelle fille vous avez été, mais la mère, elle se révèle en même temps qu'avec les enfants. Et vous ne savez pas quelle mère vous êtes, et vous le découvrez au fur et à mesure.
Ouais.
Donc du coup, si vous avez un enfant qui est plutôt, vous revenez de la maternité, avec ce bébé qui n'arrête pas de pleurer, j'arrive pas à décoder ses larmes, ses pleurs, est-ce qu'il a faim, est-ce qu'il est, il veut être changé, ou bien est-ce qu'il a des coliques, qu'est-ce qui se passe en fait du coup. Et on n'a pas le bon décodage. Vous savez, c'est le seul métier, le métier de parent dans lequel, je le dis tout le temps, il n'y a pas d'école de formation. Il n'y a pas d'école.
Sauf le premier.
Le premier, c'est-à-dire qu'on
apprend avec le premier.
On apprend avec le premier, et à une époque, maintenant, ça se fait. C'est plus rare, même s'il y a un petit retour quand même. Avant, c'était notre propre mère, en fait, qui nous apprenait à devenir mère. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Avant, on préparait quand même. Moi, je viens de la culture marocaine.
Moi, je connais quand même beaucoup de parents qui disent, j'espère que je serai pas comme mes parents.
Oui, j'espère que je serai pas comme mes parents.
Et au final, ils sont exactement comme leurs parents.
Mais vous savez pourquoi, Philippe ? Parce qu'en fait, ils sont en train de se construire dans l'opposition. Quand vous vous construisez contre quelque chose, vous êtes en train de produire la même chose. Ça, c'est une règle. Quand ce que vous fuyez, ce que vous ne voulez pas reproduire, plus vous le repoussez, plus vous l'attirez à vous. C'est physique. Pourquoi ? Parce que du coup, par exemple, prenons l'exemple d'un parent qui n'a pas reçu, on l'a eu, vous vous rappelez, une mère envahissante, je dis je veux pas être envahissante, je veux être avec mes enfants dans une relation plutôt équilibrée, plutôt épanouie. Très bien. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais les laisser, je vais plus tendre en fait vers la permissivité, d'accord ? Le laxisme, les laisser faire ce qu'ils veulent. Mais au niveau du résultat chez l'enfant, qu'est-ce que ça va créer ? Qu'est-ce que ça va susciter chez lui au niveau émotionnel ? C'est que je n'ai pas assez de valeur pour que maman fasse attention à moi. Du coup, quand on a eu affaire à une mère envahissante, je vais construire des frontières de mon identité qui vont plutôt être rigides. D'accord ? Donc cet enfant qui n'a pas eu, qui a eu une mère envahissante, donc il va créer une frontière, un mur entre lui et sa mère pour pas qu'elle l'envahisse. Et quand on a affaire à un enfant qui, justement, on ne fait pas attention à lui et vers lequel on va pas montrer, en fait, toute cette sollicitude, elle est, même si on le fait dans une intention de, pour le laisser s'épanouir. Mais du coup, comme on le fait en opposition par rapport à ce qu'on a vécu nous-mêmes, par rapport à cet envahissement, qu'est-ce qui va se passer ? Cet enfant va aussi créer des frontières de son identité rigides. Du coup, le résultat, c'est exactement le même, avec deux attitudes opposées. Mais comme la construction se fait dans l'opposition, donc forcément j'aurai le même résultat.
Alors disons-le tout de suite, Karima, les enfants ne naissent pas avec le gène de l'enfant infernal ou avec,
non,
ou avec le gène et l'envie de saboter la vie de leurs parents.
Non, le travail d'un enfant, c'est quoi ? Le travail, depuis qu'il est tout petit, moi c'est pour ça que je dis, vous ne devez pas être autoritaire, mais faire autorité avec votre enfant. Et pas être autoritaire. Faire autorité, c'est quoi ? C'est faire avec. C'est co-construire avec l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, lui, son rôle, c'est quoi ? C'est de transgresser toutes les règles que vous allez poser. C'est de dépasser les limites. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de se construire. Et pour se construire, il a besoin qu'on lui pose des limites, bien sûr. Il a besoin de présence. Et il a besoin aussi de dépasser en fait pour pouvoir mieux revenir, dépasser ce qu'on aura posé. Ça se fait généralement à l'adolescence, d'accord ? Mais un enfant, si on pose le jugement dès qu'il arrive, et les étiquettes d'ailleurs, moi je me bats contre ça, les étiquettes qu'on peut poser sur les enfants. Ah ben tiens, celui-là, il a du caractère, hein, ça se voit rien que la manière dont il pleure. Ça y est, on a déjà posé une étiquette sur lui. Cet enfant, quoi qu'il fasse, on va le regarder sous le prisme de quoi ? Il a du caractère. Il a du caractère par rapport, donc ça peut être un point fort, mais ça peut être aussi
oui,
un point faible.
On parle de fort
mais
caractère.
Les enfants, de fort caractère. Mais l'enfant, il n'est pas là pour nous embêter. Il est là aussi pour nous révéler des choses sur nous-mêmes. Je l'ai dit tout à l'heure, je sais la fille que j'ai été, je sais la femme que je suis, l'épouse probablement aussi. Je le découvre avec mon conjoint, mais avec mes enfants, je découvre la mère que je suis. Du coup, ça va faire appel à quoi ? À toutes mes autres identités que j'ai construites avant. D'accord ? C'est-à-dire mon rapport à l'autorité, mon rapport en fait à cet enfant, parce que la plupart des parents, ils font un enfant pour eux. Donc ils l'éduquent avec quoi ? Ils l'éduquent avec leur ego, ils l'éduquent avec ce qu'ils veulent, cet enfant, et tout leurs rêves, toutes les projections. Et du coup, on tombe en burn-out. Pourquoi ? Parce que cet enfant idéal, cet enfant fantasmé, il ne correspond pas à l'enfant réel que j'ai entre les mains. J'imaginais que j'allais avoir une belle petite princesse avec ses joues bien roses, toute mimine. Je l'habille comme une poupée. Puis du coup, non, celle-là, elle fait que brailler. J'en ai marre, je comprends pas. Elle m'empêche.
Elle se salit toute la journée.
Elle se salit toute la journée. Elle salit partout. Je suis devenue une esclave dans ma maison. Donc pourquoi ? Parce qu'il y a un niveau d'exigence qui est peut-être très élevé. Quand on a des enfants. Vous savez, moi, j'ai reçu des gens en consultation qui me disent, voilà, la femme, je veux dire la femme, parce que je reçois beaucoup de femmes, et c'est souvent les femmes qui sont atteintes de ce syndrome-là, qui arrivent, elle est dans un état, je vais dire ça, de délabrement avancé, c'est-à-dire qu'elle ne prend plus soin d'elle. Le peigne ne passe plus dans ses cheveux. Son teint, son visage, ses yeux, rien, pas de maquillage, rien du tout. Je veux dire, ne serait-ce que pour avoir hydraté sa peau. Je vais juste parler de ça. Donc, elle arrive, la peau, je vous dis pas dans quel état, les vêtements, elle ne fait pas attention à comment elle est habillée, mais par contre ses enfants sont tirés à quatre épingles, bien habillés, bien apprêtés, bien ajustés. Donc ça veut dire que là, en fait, elle rentre dans le rôle de la mère, mais la mère en fait qui est la mère araignée. Quand je dis la mère araignée, c'est-à-dire elle n'existe plus en tant que femme et en tant qu'être humain. C'est-à-dire qu'elle ne va plus du tout subvenir à ses besoins fondamentaux. Je reçois des mamans qui ne se lavent plus. Elles n'ont plus le temps de prendre la douche. Elles n'ont plus le temps d'aller aux toilettes. Elle me dit, je rêve juste d'aller aux toilettes tranquillement. C'est le seul moment où je peux être dans une pièce et toute seule.
Alors, les spécialistes ont eu du mal à reconnaître ce qu'on appelle le burn-out au travail. Il y en a encore qui se demandent s'il existerait une forme d'épuisement qui soit liée au fait de s'occuper de ses enfants.
Oui,
il n'y a pas de consensus encore là-dessus.
Il n'y a pas encore de consensus, mais il y a des études qui ont été faites, notamment, j'ai une étude qui a été faite sur le burn-out donc parental et qui comprend les trois dimensions, l'épuisement émotionnel, la distanciation émotionnelle, la perte d'efficacité et d'accomplissement dans le rôle parental. C'est-à-dire quand on a ces trois facteurs qui sont liés, on peut parler de burn-out. Et on retrouve un peu la même chose au niveau dans l'entreprise ou au niveau professionnel. Seulement, au niveau professionnel, il y a quand même une rémunération. D'accord ? Il y a un travail, on est payé pour un travail. En tant que parent, on n'est pas payé pour ce travail. Je veux dire, il n'y a pas un retour où on va se dire, bon, ben c'est bon, je vais patienter, à 17h, je rentre, ça y est, c'est fini, je laisse ça à la base, c'est-à-dire je change d'espace et je vais cloisonner ces espaces. À la maison, c'est pas possible. C'est 24 heures sur 24.
Alors, le fait d'être épuisé, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas vos enfants.
Non.
Ça ne veut pas dire que vous êtes des mauvais parents.
Pas du tout. Ça veut dire que vous êtes un être humain.
Voilà, c'est un signe.
Exactement. C'est un signe qu'il va falloir lâcher en fait la pression, lâcher tout ce qui va générer du stress, d'accord, et lâcher aussi son niveau d'exigence. C'est pas parce que votre enfant il a pas pris un bain tous les soirs que ça veut dire que vous êtes un mauvais parent. C'est pas parce que votre enfant il est pas inscrit. Moi je vois des enfants qui ont des agendas de ministres. Je dis mais à quel moment cet enfant il s'ennuie? Parce que l'ennui c'est une source de créativité. Parce qu'au moment où il s'ennuie, il peut créer quelque chose. Non, le poney, le hand, la piscine, l'activité artistique, en plus de son activité, en fait, du temps qu'il passe à l'école. Donc du coup, maman, elle fait quoi? La course. Elle devient le Uber de la famille, qui elle va déposer celui-là, récupérer l'autre. Et tout doit tenir dans un timing parfait.
Mais
c'est pas possible.
Mais ça, c'est maman qui s'est collé la pression, finalement.
Mais ça, c'est juste maman. Maman et la société qui colle cette pression aussi. Parce que quand vous allez dans les réunions de parents d'élèves, quand les parents se réunissent, de quoi ils parlent? Ils parlent de leur enfant, d'accord? Ah, et ben, il fait quoi ton fils cette année? Ou des profs, voilà, qui est pas, oui, ça c'est. Mais je vais rester sur le registre des parents, parle de nos enfants, d'accord? Ça va être quoi? Il fait quoi comme activité ton enfant? Tu l'inscris? Tu l'as pas inscrit? On a peur du jugement, d'être jugé, d'être une mauvaise mère. Et je vais reprendre la parole de Winnicott, psychologue et psychanalyste, qui disait, il faut que vous soyez une mère suffisamment bonne pour votre enfant. Ça veut dire quoi, suffisamment bonne? Je suis peut-être pas la mère parfaite, et je ne serai pas la mère parfaite, parce que la mère parfaite n'existe pas, mais je suis la bonne mère pour mes enfants. Suffisamment bonne. C'est-à-dire, je vais pouvoir donner de ce que j'ai, et de ce qui est important pour moi, et dans cet enfant, il est là pour moi, et je suis là pour lui.
Alors c'est pas rare hein, les formes d'épuisement, c'est vrai que les gens n'en parlent pas d'eux-mêmes.
Non, c'est très 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 tabou.
On l'a dit tout à l'heure,
oui. Hein,
c'est tabou de dire finalement mes enfants m'épuisent, mais ils l'expriment quand même d'une certaine façon.
Oui,
j'y arrive plus, je m'en sors pas.
Je m'en sors pas, mais parce qu'en fait la peur du jugement et aussi la culpabilité. Et ça va avec le burn-out. Une maman qui culpabilise beaucoup de pas faire assez, une maman par exemple qui décide de se reposer, elle va mettre ses enfants. Là notamment, j'ai eu une discussion cette semaine avec une de mes patientes et qui me disait, oh Karima, j'ai besoin par rapport à sa maladie, mais voilà, la petite, elle la met à la crèche. Et elle me dit, mais normalement, j'y ai pas droit, mais là, par rapport à ma maladie, je la dépose pour pouvoir me reposer. Et je lui dis, est-ce que vous reposez? Elle me dit non, parce que quand je me repose, je pense à elle. Donc là, c'est un autre sujet, mais qui est lié avec ça, la charge mentale. Ça veut dire quoi? Mon enfant est entre de bonnes mains, avec des personnes responsables, qui s'occupent bien de lui, en sécurité, mais je suis incapable de me reposer. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui dit, t'as vu comment t'es là? Toi, tu es là, tu te reposes, alors que tu travailles pas, t'as pas de bonne raison de te débarrasser de ta fille. Voilà ce qui se passe, la petite voix, ce qu'elle dit. Alors que cette petite voix, il faut la faire taire et lui dire non, j'ai le droit de me reposer. Et ça, c'est souvent en fait une transmission inconsciente qui se fait de mère en fille, surtout si on a vu sa mère tout le temps travailler et être au service de tout le monde avec son tablier toute la journée.
La bonne, quoi.
La bonne, ouais. Voilà, la bonne, l'esclave. Et de dire non, mais quand on la voit se reposer, on dit, qu'est-ce que t'as maman, t'es malade? Et même quand elle est malade, elle a 42 fièvre, non, elle est quand même dans la cuisine en train de préparer pour ses enfants. Et donc, le seul moment qu'elle va s'octroyer, c'est quand elle peut plus rester debout. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Là, il faut lutter contre ça. Non, j'ai le droit de me reposer. C'est important pour moi de me reposer parce que quand je serai reposée, je vais pouvoir être encore mieux avec mes enfants. Parce que avec le burn-out aussi, et ça on en parlera après, c'est la présence aussi spirituelle.
Bien, alors on parle du burn-out parental avec Karima Shadibaou ce matin. Si vous-même vous vous reconnaissez, on verra d'abord comment, un, le détecter, deux, comment s'en sortir. Et vous pouvez bien sûr poser vos questions à Karima au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. On parle du burn-out parental avec Karima Shadibaou aujourd'hui. Karima, la plupart du temps, les femmes et les hommes qui souffrent de burn-out parental ne s'en rendent pas compte.
Non.
C'est l'entourage, c'est les autres qui le leur signalent.
Absolument. À quel moment, en fait, ils s'en rendent compte ? Quand déjà, au niveau énergétique, la baisse d'énergie, c'est-à-dire j'ai plus de force, j'arrive plus à me lever. Il y a une espèce aussi de dégoût, d'espèce de dégoût à envie de faire les choses. Et qu'on commence aussi à ressentir que notre enfant, là, il y a quelque chose, qu'il y a une petite voix là qui me dit il m'agace, il m'embête. Et puis, bien sûr, au niveau des indicateurs physiologiques et corporels, il y a déjà une alarme, en fait, qui sonne, en fait, qui retentit, qui dit attention, trouble du sommeil, trouble du désir sexuel. Chez l'homme et chez la femme. Donc les phénomènes au niveau des deux personnes, en fait, que ce soit un homme ou une femme, il y a certaines choses qui divergent. L'homme va plus se tourner, lui, vers l'extérieur, c'est-à-dire en fait aller chercher des instants et des moments de gratification ailleurs qu'à l'intérieur du foyer, de la maison, tandis que la maman, elle n'a pas trop le choix. Donc elle, c'est à l'intérieur. Donc du coup, elle va être dans cette ambivalence émotionnelle. Et ça, elle s'en rend pas compte. En fait, c'est plutôt les amis ou la famille qui vont lui dire, tiens, j'ai remarqué, là, tu as repoussé ton enfant d'une manière assez brutale et violente. Et elle s'en aperçoit pas. Ou alors quand il vient l'apprendre, dit maman, je veux un câlin. Et pour elle, le contact physique, c'est juste pas possible. Elle a mal partout. Elle va commencer en fait à somatiser, à avoir des réactions. Souvent, on peut tomber dans la fibromyalgie, c'est-à-dire en fait des douleurs au niveau du corps et on n'arrive pas à trouver en fait l'origine, d'où ça vient. Cet enfant qui vient et qui veut absolument un câlin, j'en ai marre, j'en peux plus. Je suis pas une banque à câlins ou un distributeur de câlins.
Ou alors des énervements non expliqués.
Des énervements, irritabilité, troubles de l'humeur, tout ça, c'est des symptômes qui vont nous alerter, nous dire attention, il y a quelque chose qui dysfonctionne, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai été peut-être un peu trop loin, j'ai dépassé mes limites, j'ai besoin de me reposer, de me ressourcer et avoir du temps sans mes enfants.
Est-ce qu'on connaît les causes, finalement, de ce burn-out ?
Alors, les causes, généralement, on va parler du stress, ce qu'on appelle aussi le baby blues, après le retour à la maternité, le retour à la maison, la désorganisation, la déstructuration, parce que quand le bébé arrive, il y a une nouvelle organisation qui doit s'installer. C'est pour ça que l'un des remèdes, du burn-out, c'est je réorganise la maison, mais avec ce que j'ai, pas avec l'idéal, pas avec ce que j'imagine, d'accord? Back to reality, exactement. Donc ça, c'est une des causes de ce burn-out. La cause aussi, c'est je ne suis pas à mon écoute. C'est tout pour mes enfants. Je réponds qu'aux besoins de mon enfant. Et moi, je ne m'écoute plus. Mes besoins fondamentaux, besoin de dormir. J'ai besoin de dormir 6 à 7 heures. D'autres personnes, c'est 8 heures. Donc, je dois prendre ce temps de sommeil. La plupart du temps, qu'est-ce qui se passe,
Philippe ? Le fait de passer après ses enfants.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. De passer après ses enfants. Ou alors, quand l'enfant va dormir, où on le met à la sieste, qu'est-ce qui va se passer ? Maman, au lieu d'aller profiter de ce temps-là et de dormir aussi en même temps, qu'est-ce qu'elle va faire ? Ah ben tiens, je vais faire 3-4 machines. J'ai du linge qui attend. Je vais aller en profiter pour aller astiquer mes placards et remettre un peu d'ordre. En fait, elle va créer en fait une autre surcharge en fait au niveau de toute sa gestion domestique dans la maison. Donc du coup, elle ne profite pas. Donc il faut qu'il y ait vraiment du temps de qualité. D'accord.
Quality time. Donc c'est la super maman. Enfin,
voilà, la super maman qui est au four, au moulin, comme si je peux reprendre cette expression là. Donc il va falloir tout réorganiser. Moi je suis pour la méthode, par exemple, c'est ce que je conseille dans mes ateliers, la méthode Fly Lady. C'est quoi cette méthode Fly Lady?
Fly Lady.
Voilà, la dame qui vole un petit peu. C'est-à-dire qu'on va survoler, on va s'organiser. On ne doit pas dépasser 30 minutes de ménage par jour. Pas plus de 30 minutes. Et je vais faire à fond une pièce par semaine. D'accord? Ou une pièce tous les 3 jours. Donc, vous allez sur Internet, vous tapez Fly Lady, vous allez trouver plein d'astuces. C'est génial. Donc, du coup, pourquoi? Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que je vais ouvrir les armoires. Allez, je descends toute l'armoire, je dois... là, on est à la période de l'automne, il fait froid, je vais mettre toutes les affaires d'hiver, les pulls, les machins. Ça, c'est un truc, c'est un rituel qu'on fait assez souvent entre les deux saisons, l'automne et le printemps. D'accord. Donc là, je vais plutôt me dire, ok, comment je peux organiser ça? Il n'y a pas d'urgence, c'est-à-dire de se faire une liste de qu'est-ce qui doit être nécessairement fait et obligatoirement fait. Par exemple, le repas. Et le repas, c'est pas tous les jours le tagine, quoi. Hein, une purée, c'est pas grave.
Je pense, on aime le tagine.
Voilà. Bon, ça dépend. Oui, mais parce que moi, j'ai vu des dames, des mamans avec une exigence ou celles qui passent, par exemple, vous savez, c'est très à la mode maintenant. Oui, il faut manger bio, il faut manger le pain, on va le faire nous-mêmes avec une farine spéciale. Oui, d'accord. Mais faut pas être des terroristes du truc, quoi. Moi, excusez-moi, hein, Philippe. Hein. Moi, je suis un peu comme ça.
Vous êtes une mauvaise mère, Karima.
Bah, voilà, je l'assume totalement.
Vous donnez du pain.
Voilà, du pain blanc, du pain tout fait, de la boulangerie, voilà. Et j'ai un bon artisan boulanger.
C'est
voilà.
Affreux, c'est affreux. Donc, Hamza est avec nous.
Oui,
on va accueillir peut-être un papa. Bienvenue, Hamza.
Bienvenue.
Bonjour, salut Philippe. Bonjour, Karima.
Bonjour, Hamza.
Oui, déjà je vous remercie pour le sujet d'aujourd'hui parce que je trouve que c'est un sujet très très important qui touche tous les foyers dans le monde, hein, c'est pas que en France.
Absolument.
Voilà. En fait, moi je suis papa, j'ai 36 ans, j'ai 3 enfants.
Oui.
Oui.
En fait, tout ce que vous avez dit à travers votre mission, je me reconnais en fait. Je me vois dedans en fait. C'est vrai, on a parlé souvent de la maman, de la femme en fait. Mais le jour d'aujourd'hui, je trouve que en fait c'est un problème qui touche le couple lui-même en fait.
Ah oui,
pas vraiment la maman. Hein.
Oui, ça interroge le couple.
Voilà. Oui,
bien sûr.
Oui,
exactement.
Oui.
Voilà.
Parce que j'imagine Hamza, je vous coupe, que ouais. Même au niveau là, vous êtes plus un couple parental qu'un couple conjugal. Du coup, des moments d'intimité avec votre épouse, c'est presque, ça n'existe presque plus.
Exactement, c'est ça le bon fait. Je vous appelle, voilà. Pour
mais,
ça.
Mais Hamza, en quoi vous vous retrouvez? Expliquez-nous un petit peu quels sont les points que vous retrouvez dans ce qu'on a dit tout à l'heure, Hamza.
Exactement. Voilà. Déjà, c'est le temps de prendre soin, soin de soi-même. Déjà, là, franchement, ça fait un moment. Je parle pour moi et pour ma femme. Hein.
Vous le passez après les enfants.
Ah voilà, exactement. Donc tout pour les enfants en fait. J'ai 3 enfants. Le matin, on a un rythme chargé, comme on travaille tous les deux. Il faut que voilà les habiller, les préparer, le petit déjeuner, les déposer à l'école. On attaque le travail avec le stress. Déjà, on est fatigué, on se réveille tôt. Voilà, le soir, pareil, c'est la course. Qui va récupérer l'enfant, qui va le voilà, aller faire les chaînes à l'école et tout ça. Du coup, on a pas du tout de temps pour nous.
Oui, oui.
Et du coup, ça joue, sincèrement, le jour d'aujourd'hui, ça joue vraiment sur le couple.
Oui.
En fait, on rentre le soir, on s'occupe des enfants, et 22h, voilà, on n'a même pas de temps pour se parler, en fait.
Oui.
Et vous êtes épuisé.
Épuisé, mais moralement et physiquement.
Oui.
Sachant que voilà, l'enfant, voilà, pourquoi pas moi, pourquoi pas ci, pourquoi pas ça. Du coup, on rentre au travail, on travaille dans une société un peu, voilà, le stress, il est notre quotidien. Du coup, voilà, des fois, l'enfant, il nous parle, on n'arrive même pas à l'écouter, en fait. On le regarde, mais on n'écoute pas qu'est-ce qu'il nous dit.
Absolument.
Voilà, on est fatigué, tellement fatigué, on est juste envie, voilà, qu'il mange,
qu'il aille dormir.
Voilà. Et du coup, pour prendre le. On n'a même pas ce temps-là, même un quart d'heure, pour les parents, en fait, pour le papa et la maman, discuter tranquillement, voir qu'est-ce qu'elle a fait dans la journée, qu'est-ce que. On n'a pas le temps, en fait. Du coup, sincèrement, je trouve, hein, après et derrière, ça met en jeu la vie du couple, en fait.
Mais bien sûr, parce que du coup, vous vous retrouvez à être des parents 24 heures sur 24, on va dire en tout cas quand vous rentrez du travail, et que du coup, vous avez des enfants qui vont tirer toute l'énergie qu'il vous reste, ils vont l'aspirer, et vous allez vous sentir en fait, au moment où vous allez être vers 22h, comme vous avez dit, 22h, 22h30, un moment avec votre épouse, du coup, celle-là, on est crevé, j'ai pas envie de parler, j'ai juste envie d'écouter ce que dit ma tête, quoi. C'est un petit peu ça. D'accord? Donc ce qu'il va falloir... Oui? Allez-y.
Par contre, nous, on se demande des fois, voilà, quand on a eu un peu de temps de parler avec ma femme, on se demande, est-ce qu'on a vraiment, on a raté quelque chose? Parce que, sincèrement, on donne tout pour nos enfants.
Parce qu'en plus, au moment.
Pour les autres. On donne tout pour eux, mais on a l'impression qu'on a raté quelque chose.
Vous n'avez rien raté, Hamza. Mashallah, vous n'avez rien raté. La chose, c'est qu'il va falloir être vigilant. Parce que quand vous avez du temps, là maintenant, il faudrait voir déjà sur votre planning, trouver des moments et de vous dire, en fait, c'est comme une reprogrammation que vous allez faire. D'accord ? Donc, vous organisez votre vie de famille. Vous faites un planning. Comme ça, vous n'êtes pas dans le dépêche-toi, 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 où il faut qu'il soit dans deux drivers, en fait, ce qu'on appelle, nous, les drivers, c'est-à-dire des pilotages automatiques. Mm-hmm. Vous êtes sous leur contrôle et du coup, vous ne savez plus ce que vous faites.
La journée commence et elle finit. Voilà. Vous ne savez pas ce qui s'est passé au milieu.
C'est exactement ça. Absolument. Donc, du coup, le dépêche-toi et le sois fort, parce qu'il ne faut pas lâcher, c'est nos enfants, et même quand vous arrivez le soir. Le sujet de discussion, ça reste encore les enfants, donc ils sont encore présents, même s'ils ont été se coucher, d'accord? Et puis, vous avez parlé aussi de présence, je les écoute plus. Pourquoi? Parce que la présence spirituelle, ça veut dire quoi la présence spirituelle? Je parle pas de religieux, là. Je parle de la présence de l'être, de qui vous êtes. Vous n'êtes pas là, votre corps est présent, mais votre esprit, il n'est pas là. Votre esprit, il rêve d'être au bord de la plage ou d'une piscine, ouais, aux Bahamas, à siroter un cocktail avec votre tendre et douce, et vous avez pas du tout envie d'être avec ce petit enfant qui est en train de vous tirer et de vous prendre toute l'énergie. Donc ça, déjà, il faut être OK avec ça et l'accepter. Hamza, acceptez-le, dites, je suis un être humain comme tous les autres, j'ai des besoins et en ce moment, ce besoin n'est pas respecté. D'accord ? Donc du coup, vous allez vous engager, dès que vous voyez les choses de cette manière-là, vous allez vous engager dans les tentatives de solution. C'est quoi la tentative de solution ? Une fois que j'ai organisé mon planning avec ma chère et tendre, d'accord ? Vous allez poser des limites à cet enfant et lui dire, c'est le temps de papa et de maman. D'accord ? Mais vraiment, le temps... Alors Philippe, je vous vois faire ça.
Non, parce que souvent les enfants, ils estiment que vous leur consacrez déjà pas assez de temps à eux.
Alors, mais justement, c'est pour ça qu'on parle de la présence spirituelle.
Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est-à-dire,
donc,
c'est un
enfants,
temps...
Disent, on vous voit pas toute la journée parce que vous bossez tous les deux.
Oui.
Donc maintenant, ce temps-là, il est à nous, si vous voulez bien.
Mais c'est pour ça qu'il faut leur dire, on va passer un temps de qualité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un temps de qualité où je suis pleinement présent avec mon enfant. Vous savez, un enfant, il le sent. Quand maman est là, quand papa est là, pendant 5 bonnes minutes.
Mais en vrai,
C'est lui qui va dire c'est bon, tu peux y aller, hein. Il va plus rien vous demander, il va aller jouer, il va sortir ses activités, il va rien demander. Mais un enfant, quand il sent que papa et maman ne sont pas là, même quand vous êtes là physiquement, mais spirituellement vous n'êtes pas là, ils sont là, ils tirent sur vous. Mais oui, mais écoute-moi, mais regarde-moi, mais tu vois, tu m'écoutes pas. Et vous, mais si, je t'écoute, mais si. Et vous n'en pouvez plus. Donc, savoir dire non à votre enfant, c'est primordial. Savoir dire non, ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire que vous ne l'aimez pas. Ça veut simplement dire, je me respecte et je te respecte. D'accord ? Parce que lui, il va apprendre à le faire lui aussi. Il va apprendre à être à l'écoute de ses besoins. D'accord ? Je vais prendre le temps qu'il faut pour m'occuper de toi et être avec toi. Et ce temps qu'il faut, c'est le temps du monde en une demi-heure. Donc vous voyez, vous allez, c'est des petites phrases moi que je donne aux parents. Tu as le temps du monde en 30 minutes. Du coup, vous le programmez en fait, vous aidez votre enfant. Ouais. Quand j'ai programmé, j'ai pas d'autre mot, hein. Il est pas très élégant ce mot-là, mais bon, je pense que vous avez compris Hamza. Et oui, de lui dire, voilà. Et donc ça veut dire quoi ? Je prends du temps pour moi. Vous allez planifier votre temps libre. Une fois par semaine, vous avez votre sortie avec votre épouse, sans les enfants. Appelez les tatas, les tontons, ils vont s'occuper d'eux. Et ça, vous l'imposez. C'est pas, je vais demander l'avis à mes enfants s'ils vont être contents ou pas. Non, ça c'est une bonne frustration qui va leur apprendre à je suis un être humain comme les autres. Papa, c'est pas une machine. Maman, c'est pas une machine. C'est pas un robot. C'est pas un distributeur non plus de câlins. Le câlin, si tu veux. Moi, vous savez, j'ai une petite astuce que je fais avec mon
ou
fils.
Ou d'argent,
oui aussi. Avec mon fils, quand j'arrive et que je suis du travail, lui, il vient, il est très tactile et très câlin. Et je lui dis, on a un code entre nous. Et je lui dis, écoute, Zakaria, est-ce que tu veux un câlin de qualité? Que je pourrais te donner que dans 30 minutes, quand j'aurai fait le vide dans ma tête et que je me serai débarrassée de toutes les mauvaises énergies que j'ai pu capter dans la journée, soit tu attends, soit je te donne un câlin, mais il n'aura pas de goût ni de saveur. Et il me dit, ah non, moi je préfère le câlin, donc ok, je reviens dans 30 minutes ou c'est toi qui reviens vers moi. Du coup, il a 14 ans maintenant, on a installé ça depuis qu'il est tout petit. Du coup, moi je me sens pas, et vous allez voir, vous n'allez plus vous sentir envahi, oppressé, vraiment sous l'injonction, je dois donner un câlin si je veux être un bon papa. Non, Un bon papa, c'est aussi quelqu'un qui est à l'écoute de ses besoins. Et ça, c'est fondamental. Donc, planifiez du temps libre pour vous. Vous allez apprécier les petits moments de quotidien, ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure. C'est-à-dire, ne cherchez pas dans la durée que ce soit. Faut pas que ce soit trop long. Vous allez faire des petits pas. D'accord ? Des petits pas pour y arriver, pour installer en fait ces habitudes. Parce que là, vous êtes en train de rééduquer. Vous éduquez vos enfants, mais vous, pour vous, vous faites une rééducation à être à l'écoute de vos besoins. En tant que père, mais en tant qu'homme aussi. C'est fondamental.
Voilà. Mais par contre, juste une chose. Voilà, le temps qu'on a, en fait, moi et ma femme, quand on sort, pour moi, j'arrive à me détacher, en fait. Là, j'arrive à aller faire garder par quelqu'un. J'arrive à me détacher. Voilà, on va prendre un peu de temps, une heure au ciné, tout ça. Mais par contre, ma femme, ce que j'ai remarqué souvent, je fais des remarques, mais à chaque fois qu'on sort, elle est déjà stressée dans la voiture.
Elle déconnecte pas.
Elle appelle la loulou tous les deux secondes.
Eh ben oui. Mais oui.
Du coup, même moi, je me sens pas en fait. Je suis concis. Je suis déjà chez moi en fait.
Oui.
Elle culpabilise.
Eh ben c'est exactement.
Voilà.
C'est parce qu'elle culpabilise et elle doit se dire probablement. Et vous pouvez discuter là-dessus. Vous allez l'aider en fait. Comment vous allez aider votre épouse en lui disant, écoute ma chérie, nos enfants, est-ce qu'ils sont en sécurité? Elle va vous dire oui. Est-ce qu'ils ont dîné, mangé? Tout le monde, c'est les personnes qui s'occupent d'eux, leur donnent ce qu'il faut. Oui. Ok. Maintenant, tu coupes. Allez, tu déconnectes. C'est notre moment à nous. Vous allez créer cette bulle en fait où vous allez vous retrouver en tant que conjoint, épouse et époux. D'accord ? Et plus comme parent. Vous sortez pas en tant que parent. Habillez-vous, parfumez-vous, faites-vous beau. Dites-vous, voilà, c'est comme pour renouer avec les premiers instants quand vous êtes connus et toute la séduction qui va avec.
Hamza, prenez soin de vous et merci pour votre appel. On prendra d'autres appels dans un instant. On parle du burn-out familial et parental ce matin. 01 53 48 3000 si vous voulez intervenir. 01 53 48 3000.
Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et nous parlons de l'énurésie ce matin avec Karima Shadi Baou, psychothérapeute, et le docteur Christophe Philippe, qui est pédiatre, qui est avec nous en ligne depuis Saint-Malo. Alors, Wafa nous attend au standard au 01 53 48 3000. Bienvenue, Wafa.
Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, docteur.
Bonjour, Wafa.
Bonjour. En fait, moi, je suis maman de 3 enfants. Et en écoutant votre émission, en fait, j'ai un enfant, mon garçon, en fait, qui fait pipi au lit, qui a 6 ans, bientôt 6 ans. Et en fait, c'est quelqu'un, c'est mon fils, en fait, c'est un enfant qui a cherché à être propre très tôt. De lui-même à enlever la couche à 2 ans. Il a dit, je veux plus de couche. Il hurle, il pleure, il voulait aller aux toilettes. Donc pour lui, c'était, je veux pas de couche. Donc nous, on s'est adapté à lui, pas de souci, il allait aux toilettes, il est resté propre, jour et nuit, le jour lendemain. Et en fait, ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'il commence à faire pipi au lit. Et c'est sans s'en rendre compte. En fait, il se lève le matin, il crie, c'est mouillé, maman. Ou sinon, dans la nuit, il se réveille, il me dit, je suis mouillé, en pleurant. Donc, sans vous mentir, au début, j'ai cherché à comprendre pourquoi. Après, j'ai essayé de le punir, de lui expliquer. En fait, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui marche. Et je ne sais pas ce qu'il a exactement, pour vous dire. Voilà. Donc, est-ce que le fait que j'ai eu ma fille juste après j'ai eu un petit garçon, ou est-ce que je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas du tout dans quel état il est.
D'accord. Wafa, c'est l'aîné de la fratrie? C'est le plus grand?
Oui, c'est l'aîné.
C'est l'aîné, d'accord.
Oui.
D'accord. Et les suivants, ils ont quel âge?
Alors, j'ai ma fille qui a 2 ans, donc c'est 3 ans après. Quoi, quand
d'accord.
3 ans après le premier. Et le dernier, je l'ai eu, il a même pas un an encore.
D'accord.
Il a 11 mois et quelques.
D'accord.
Donc, ça fait quoi? Ça fait peut-être depuis la naissance de la petite ou même un petit peu avant, je ne sais plus trop exactement.
Mm-hmm.
Mais en fait, il a un problème aussi dans la journée, c'est que c'est pas qu'il ne veut pas aller aux toilettes, il y va, mais toujours à la dernière minute. Il y va vraiment quand son slip il commence à être un peu mouillé. Et là, il se dit, bon, il faut que j'aille aux toilettes. Et donc, la plupart du temps, il se perd un peu dans son caleçon. Et là, l'autre moitié, ça va être dans les toilettes.
D'accord. Donc, c'est quand il est absorbé, quand il joue, il est très concentré, quand il s'amuse, quand il fait c'est à ce moment-là qu'il, qu'il réalise quand il y a une goutte en fait dans son slip,
ouais,
et qu'il et oui, alors en fait là alors il faudrait explorer hein, bien sûr hein, plus longuement, parce que là vous avez vous une expérience de référence, c'est-à-dire que vous la datez par rapport à la naissance de sa petite sœur qui est arrivée. Mmh. En plus vous avez parlé juste avant de son envie en fait d'être propre, comme vous avez dit tout de suite, ouais, à l'âge de 2 ans, de jeter la couche, de voilà. Donc là il y a une volonté en fait de grandir, de se responsabiliser aussi, de ce que j'ai entendu. Maintenant, après, avec la venue des petits frères et de la petite sœur juste après, il y a probablement, alors c'est une hypothèse hein, que je fais, mais il faudrait plus discuter avec vous et plus explorer, une hypothèse que en fait, il y a une question de place. De la place. Donc c'est l'aîné, c'est le plus grand. Il y a un petit frère et une petite sœur qui arrivent après. Ma place, alors que lui, il est en train de grandir, d'évoluer naturellement et normalement, j'ai envie de dire, entre guillemets.
C'est vrai que c'est un petit qui cherche toujours à être le plus, à faire comme papa. Je veux être grand.
Le vélo, voilà.
Déjà, il fait du 16 pouces.
Oui.
Il veut maintenant prendre les petits. C'est quelqu'un qui veut toujours, je débarrasse avec toi la table, je fais ci. En fait, il veut toujours être grand, il veut toujours.
Et se rendre utile, j'ai l'impression aussi.
Exactement. C'est
donc,
quelqu'un qui est comme ça, qui est autonome depuis très longtemps.
Oui.
Qui veut mettre. En fait, c'est un enfant qui fait les choses tout seul.
Donc, si je peux me permettre, Wafa, donc enlever punition, tout ça, là, vous enlevez tout ça, allez vous appuyer sur ce talent qu'il a de vouloir aider, d'être au service, de se rendre utile, tout en le rassurant sur le. Vous savez, moi, j'aime bien dire aux parents, tu fais pipi, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a pas.
Maintenant je le dis. Hein. Je lui dis c'est pas grave. Je vais changer les draps. C'est pas grave mon fils.
Alors laissez-le lui changer les draps. Il peut lui changer les draps. Mmh. Puis s'il se réveille quand il a fait pipi, il dit c'est mouillé. Très bien. Mmh. Vous pouvez aussi lui raconter des histoires. Moi j'utilise beaucoup les histoires parce que vous savez le psychisme et l'inconscient adore ça. Les métaphores, une belle métaphore sur un. Vous faites une analogie comme ça hein, d'un petit enfant. Qui, par exemple, vous développez tous les talents et notamment des points communs avec lui, avec votre fils, des talents donc de responsabilité, d'autonomie, de talents qui on peut compter sur lui, donc des choses comme ça, et lui donner en fait une responsabilité dans l'histoire que vous allez raconter de cette petite fille ou de ce petit garçon, pour l'aider lui en fait à prendre en charge et à trouver ses propres solutions. Et probablement, ça va aussi le rassurer sur sa place. Parce que s'il a été propre à un moment donné, qu'ensuite il revient à faire pipi, c'est que il y a ma place, elle est où ma place? Où se trouve ma place dans cette famille?
Pourtant, je vous assure, je m'occupe de lui comme pas possible. Son père, c'est bon, vu que c'est le plus grand, il est plus grand, donc il s'occupe de lui, il l'emmène dans des activités, il fait tout avec lui.
Oui.
Au contraire, il veut même pas emmener les petits parce qu'il me dit non, mais c'est, ils vont m'empêcher de sortir, ils vont m'empêcher d'avancer, de faire des activités, donc voilà. Mais le truc, c'est que c'est même pas le pipi, des fois, c'est même les selles, en fait.
D'accord, donc on a aussi de l'encoprésie. D'accord.
Voilà.
Alors, docteur Christophe Philippe, qu'est-ce que ça vous dit vous?
C'est toujours. J'entends bien les différentes questions de la maman. C'est vrai que c'est toujours difficile d'avoir des réponses qui sont ciblées sur un enfant. Et voilà, moi je dirais tout simplement. Bon, effectivement, il y a plusieurs petits soucis. Hein, on a bien entendu hein, où l'énurésie n'est qu'un maillon.
Il a un régime alimentaire très strict.
Oh.
Parce qu'en fait, il est intolérant au gluten,
d'accord,
au lactose, au soja, à l'œuf. En fait, il a un régime très strict.
Oui, il a beaucoup de choses. Quoi.
Oui, beaucoup de contraintes, là. Voilà, donc, c'est sa manière à lui de protester. Hein.
Voilà, ouais. Donc, je crois que dans un premier temps, il faut effectivement se servir du levier du fait qu'il ait inconsciemment comme ça envie de grandir. Hein. Ça, c'est sûr qu'il va falloir lui donner des responsabilités, mais c'est vrai qu'il est quand même, du coup... il y a une surcharge hein, quand même entre ces problèmes de pipi la journée, ces problèmes de sel. Le pipi au lit, je crois qu'il faut le mettre de côté pour l'instant. Moi, c'est ce que je ferais. Je mettrais de côté. Je dirais, écoute, l'important déjà, c'est que tu dormes bien, d'accord, hein, et que tu te réveilles pas tout mouillé, etc. Non, mais il faut lui proposer, il faut lui dire, faut chaque chose en son temps. Il faut d'abord que dans la journée, ça se passe bien. Voilà, faut pas que l'encoprésie s'installe, parce que ça, c'est vraiment difficile après, d'accord.
Oui.
Donc, il faut lutter contre la constipation. Donc, je connais aussi les régimes, évidemment, sans gluten et dans les maladies cœliaques. Et c'est vrai qu'il faut lutter contre la constipation sans l'encoprésie. Il va falloir déjà s'occuper de tout ça, parce que là, ça a des répercussions sociales qui sont très, très importantes. Il faut, je pense qu'il doit avoir ce qu'on appelle une hyperactivité vésicale. Alors, je vais être très médical, là, mais c'est vrai que sa vessie, elle a l'air d'être particulièrement hyperactive dans le sens où la sensation de besoin, bah, c'est déjà trop tard. Il a déjà fait pipi dans, un petit peu dans son pantalon. Donc, faut lutter contre ça parce que ça va aussi favoriser l'énurésie. Ça, c'est clair. Parce que sa vessie, si elle est hyperactive dans la journée, bah, risque de l'être la nuit. Et puis, s'il a une encoprésie, c'est qu'il est certainement très constipé. Et la constipation est aussi un facteur aggravant, vous voyez, je veux dire, de l'hyperactivité vésicale qui est un facteur aggravant de l'énurésie. Vous voyez, donc, c'est une espèce de cascade. Donc, faut déjà régler les petits soucis la journée et puis s'occuper du pipi au lit peut-être secondairement, mais veillez à ce qu'il dorme bien surtout. Donc après c'est à négocier.
Très bien. Moi, voilà. Vous
disiez pas qu'il se réveillait la nuit ou non?
Non, pas du tout.
Non, d'accord.
En
bon,
fait,
bah, très
il
bien,
se
d'accord.
Il réveille la nuit quand il se sent mouillé, mais une fois de temps en temps.
Une fois de temps en temps, d'accord. Bon, bah, s'il dort bien, il n'y a pas de souci, voilà. Mais par contre, il faut lui effectivement lui donner des responsabilités. Et je sais que vous avez envie d'aider votre petit, votre garçon, grand garçon.
Parce que
du coup, c'est votre grand garçon. Mais
il a. Il va au CP et j'ai pas envie qu'on se moque de lui, j'ai pas envie qu'on lui dise ouais, je suis plus pipi parce qu'il l'a fait un
bien sûr,
peu
mais...
dans son slip, j'ai pas envie que voilà.
Alors, bien sûr, mais qu'on peut organiser à l'école, hein. Il y a des d'abord faut demander à votre médecin de faire un certificat qui lui permette aussi, si vous n'arrivez pas à l'obtenir de vous-même, un certificat qui lui permette effectivement d'aller aux toilettes quand il a besoin, de lui dire bah, c'est important qu'il aille aussi aux récréations, d'apprendre à bien faire pipi. Là je vais être, je vous dis, très très pédiatre, très médecin, mais apprendre à bien faire pipi, bien baisser son pantalon, donc vaut mieux aller dans des toilettes où il y a une, je veux dire, une intimité certaine, c'est-à-dire qu'il puisse aller dans les toilettes fermées, où on peut baisser le pantalon, voilà, où il peut prendre son temps pour aller faire pipi,
pour
sans se précipiter.
Ses besoins, tous ses besoins.
Voilà, lui permettre d'y aller aussi aux heures de classe. Bon, tout ça, ça peut se faire aussi en lien avec le médecin scolaire. Il y a aussi des, bah, ça je vous le dis parce que ça existe et c'est pas inutile. Et des caleçons qui sont proposés pour ces enfants-là pour éviter et tout ça, je crois que tout ça c'est important.
Et je peux co-construire avec le docteur aussi, mais ne négligez surtout pas aussi le côté émotionnel, parce qu'un enfant quand il fait de l'encoprésie, donc il retient donc cette, la constipation qui retient ses selles et puis du coup ça s'échappe comme ça de temps en temps, et que vous trouvez des traces sur son slip ou du coup donc là il y a vraiment au niveau émotionnel qu'est-ce qu'il retient. Donc moi, mon conseil pour vous, Wafa, c'est vraiment installer un espace, un moment d'expression où il peut exprimer s'il y a de la colère, s'il y a de la peur, s'il y a de la tristesse ou quoi que ce soit. C'est son moment où il va pouvoir exprimer, parce que probablement qu'il retient, quand on retient, que ça se passe au niveau physiologique comme ça, qu'on retient les selles, ben, qu'est-ce que je retiens? Quelle est l'émotion là que je retiens? Il y a peut-être une colère. Et en tout cas, dans tout, la plupart des enfants que j'ai pu accompagner au niveau de l'encoprésie. Donc, il y a une chose que vous pouvez faire qui est toute simple et qui est aussi dans notre culture, si vous me permettez, qui est le massage. Vous pouvez simplement le prendre dans vos bras et le masser, un moment qui est privilégié soit avec vous, soit avec le papa, parce que il y a eu peut-être une séparation. Alors, je vais faire des hypothèses, hein. Une séparation, quelque chose qui a laissé, en fait, son empreinte. Et donc, l'aider à réparer, à guérir et à exprimer surtout aussi ces émotions qui restent bloquées va l'aider énormément et aura un impact sur tout le système, sur tous les mécanismes, en fait, qu'il a installés, les mécanismes de défense, le pipi au lit, l'encoprésie, avec toutes les intolérances qu'il a. C'est très contraignant, hein, pour un petit enfant de 6 ans, hein, et qui peut-être qu'il ne le comprend pas. Donc il y a toutes ces pistes-là à explorer, Wafa. Je vous souhaite beaucoup de courage, une belle énergie et vous êtes la bonne maman pour ce petit garçon.
Merci, Wafa. Parce que Wafa commence à en parler, mais c'est vrai qu'un petit garçon qui va rentrer
au CP,
elle lui disait, je voudrais pas que ses copains se moquent de lui, qu'il ait honte. Mais il faut penser aux répercussions psychologiques que ça a sur l'enfant.
Mais oui, parce que souvent c'est le parent aussi qui va projeter tout ça sur son enfant, de dire, oh là là, s'ils apprennent qu'il fait pipi au lit, qu'il fait aussi un peu caca sur lui, comment ça va se passer, quelle est l'image aussi de moi en tant que maman, il y a aussi ça qui se joue. Donc faut vraiment séparer les choses, hein, vraiment les séparer, et d'être vraiment, j'ai envie de dire, un soutien indéfectible pour cet enfant. Et parce que la plupart du temps, déjà, l'école met la pression. Ça y est, t'es plus en grande section. Ça y est, on arrête de s'amuser. C'est la grande école, tu es au CP. Moi, je me souviens de ma fille, ma cadette, qui me disait, ça y est, on rigole plus, maman. Là, je suis au CP. Je dis, bah, attends, comment ça, on rigole plus? On rigole, on s'amuse. Et... parce qu'il y a déjà une exigence qu'ils vont s'imposer, que le système impose, mais que l'enfant lui-même, après, ça dépendra aussi de son tempérament, de sa nature.
Docteur Christophe Philippe, donc il y a des solutions. Oui. De toute façon, il faut dire aux parents qui ne sont pas seuls en plus.
Absolument.
Exactement, il faut en parler. Il faut en parler au médecin. Bon, faut d'abord à son médecin traitant. Et puis, éventuellement, s'il y a un retentissement qui est difficile, c'est vrai qu'il faut aussi s'appuyer sur des consultations de psychologues. C'est voilà, faut en parler. Faut pas. Moi, je vois encore je vous le dis, hein, je vois encore beaucoup de parents qui me parlent de leur grand adolescent qui fait pipi au lit, qui ne veut pas consulter, et j'essaye de faire venir effectivement au cabinet, mais il y en a encore beaucoup. Donc, faut vraiment en parler plus tôt. Faut pas non plus s'affoler dès que l'enfant a 5-6 ans parce qu'il continue à faire pipi au lit. Faut pas rentrer dans des espèces d'escalades d'examens. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, et là, je pense que les parents, faut qu'ils l'entendent, pour une énurésie primaire, c'est-à-dire un enfant qui a toujours fait pipi au lit, qui n'a aucun souci la journée, il n'y a aucun examen médical à faire. D'accord? Je sais qu'une échographie, ça fait pas mal, mais ça ne sert à rien. D'accord? Et encore moins des examens invasifs, des examens urodynamiques, où on met des tuyaux dans le zizi de l'enfant, etc. Faut arrêter avec tout ça.
Faut arrêter, absolument. C'est très violent.
Une espèce de maltraitance, comme ça, institutionnelle, médicale. Donc, il faut arrêter avec tout ça. Donc, il faut voir les bonnes personnes. Il faut, là, il y a des ressources, là, et de plus en plus de médecins s'en occupent. Nous, on essaye de notre côté de créer des espèces d'annuaires de médecins, de psychologues, et puis même d'autres thérapeutes, hein, pourquoi pas, la sophrologie,
l'hypnose,
mais des gens, voilà, l'hypnose, des gens qui connaissent aussi les enfants, qui savent aussi prendre en charge les inquiétudes, l'anxiété, les troubles du sommeil. Voilà. Moi, je pense qu'il faut vraiment en parler. Oui.
Bien, merci Christophe Philippe d'avoir été avec nous, de nous avoir consacré du temps. À bientôt. Merci Karima.
Merci à vous.
Voilà.
Et merci docteur, à bientôt.
Demain, le docteur Alain Delabeau sera avec nous. Très belle journée sur Beurre FM.
Vous souhaitez poser une question à nos spécialistes? Composez le 01 53 48 3000.